Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes là en direct de Roland-Garros sur cette allée centrale, sur le stand Europe 1 avec Gilles-Martin Chauffier. Bonsoir, éditorialiste à Paris Match. Bonsoir à Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. Bonsoir à Emmanuel Soufi.
Bonsoir Pierre.
Du service politique du journal du dimanche. On va parler bien sûr de cette semaine politique qui, une fois de plus, a été haute en couleurs. C'est un peu comme ici, on se renvoie la balle au tennis. Bah, on s'est beaucoup renvoyé la balle, il faut dire, dans le monde politique cette dernière semaine, en commençant bien sûr par le gouvernement suisse. C'est pratiquement un roman feuilleton avec Emmanuel Borne qui, donc, ce matin, a réuni tous les ministres à Matignon. 8h30 ce matin, c'est ça, Jacques?
Oui, Elisabeth Borne, Elisabeth.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Emmanuel. Vous Emmanuel. Avez mélangé le président
Emmanuel,
et la première ministre.
Emmanuel. Ah bah d'ailleurs, voilà, ça commence bien. Elisabeth Borne, exactement. 8h30 ce matin, Matignon, fallait pas être en retard.
Fallait pas être en retard, et ce qui était assez curieux, en tout cas, on peut dire, c'était un peu un conseil des ministres bis, finalement, ce matin. Le premier a eu lieu lundi, au tout début de la semaine. Finalement, il clôture cette semaine par cette séquence. Et il y a juste eu, par exemple, ce qu'on appelle un tour image dans notre jargon. C'est-à-dire, juste quelques images. Au début, aucun journaliste accrédité dans la cour de Matignon, alors que tous les ministres étaient conviés ce matin à Matignon, ce qui est quand même assez surprenant.
On a peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la crainte? C'est de l'inquiétude?
Bah, vous savez, il y a une polémique qui alimente un peu.
On va y venir.
Damien Abad, le ministre, et on sent qu'il y a une volonté un peu de faire attention à ce qu'on dit, de maîtriser la communication. On ne sait pas trop où on va. On a peur des questions parfois un peu embarrassantes. En tout cas, cette affaire.
Voilà, si vous êtes 30 journalistes à débarquer dans la cour de Matignon, c'est Damien Abad. Et puis là, bonjour.
Voilà. Bon, en tout cas, ce matin, tous les journalistes étaient sur le trottoir en face de Matignon. Et la première ministre a pris la parole juste devant une caméra et sans prendre de questions.
Alors justement, la première ministre a pris la parole pour désigner la feuille de route avec ses trois urgences. On va l'écouter.
Les premières semaines de notre action doivent être consacrées à répondre aux urgences des Français. La première de ces urgences, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième urgence, c'est la santé. Nous devons répondre à très court terme aux défis du manque de personnel dans les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux. La troisième urgence, c'est le climat. J'ai donné à mon gouvernement trois mots d'ordre. Rapidité, efficacité et résultat.
Emmanuel Soufi, il y a un climat là qui est quand même lancé, une sorte d'ambiance. Hein. Attention, c'est Madame Borne. Faut pas moufter, j'ai l'impression. Hein.
Non, faut pas exagérer. Elle peut avoir un ton maîtresse d'école, mais elle l'est pas forcément. Après, voilà, c'est compliqué pour elle. Elle arrive, elle est fraîchement nommée. Tout le monde salue en fait le fait qu'une deuxième femme accède à Matignon et paf, hein, si je puis dire, la polémique Damien Abad enfle et vient empoisonner en fait son début à la tête du gouvernement. Donc il faut qu'elle ramène ça sur le fond de la politique. Hein, donc avec ses trois priorité, et notamment le pouvoir d'achat et ce texte qu'on attend, enfin que les Français attendent et à l'issue des élections législatives.
Gilles-Martin Chauffier, c'est encore très tôt pour dire ce qui va se passer. On est vraiment aux prémices du gouvernement.
C'est surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'elle ne dit rien. Elle dit je donne des feuilles de route aux ministres, à des ministres qui connaissent les feuilles de route 100 fois mieux qu'elle. Elle ne va pas dire à Bruno Le Maire ce qu'il doit faire, elle ne va pas dire à Gérard Darmanin ce qu'il doit faire. Elle est là, elle a l'air de. On nous dit, on la présente comme la super techno, et on ne lui donne pas les moyens d'agir. Parce qu'en fait, elle dit, je donnais trois priorités qui sont le pouvoir d'achat, la santé, le climat. Bon, on s'est fait les mêmes priorités depuis 2 ans, hein, on nous parle sans arrêt de ça. Et en plus, dans le numéro de match cette semaine, on a fait un truc sur la santé. La santé, oui. C'est très facile.
Avec en couverture, effectivement.
Oui, il faut augmenter les salaires. On montre des médecins qui ont des vies de bagnards, véritablement, qui gagnent 3500 euros net par mois. Et des infirmières qui ont des heures ahurissantes qui sont à 2000. Donc, on comprend très bien, les solutions, elles sont là. Donc, cette pauvre Elisabeth Borne, d'une certaine manière, elle fait de la présence, mais elle a pas d'argument.
C'est du marketing médiatique.
Non, je n'irai pas jusque-là. Elle fait son boulot. Elle est Premier ministre. Elle assume. Mais je veux dire, elle a rien à dire pour l'instant.
Il y a l'avocate d'Elisabeth Borne.
Je vais traiter de macroniste, mais c'est pas du tout ça.
Emmanuel Soufi,
voilà, du
JDD.
Il y a un côté. Il y a un côté. Voilà.
Procureur non plus.
Il y a un côté très impatient, mais voilà, Elisabeth Borne ne fait pas forcément de la politique.
Oui.
De de chicanerie ou voilà, et elle aime bien ramener, c'est une femme de dossier qui aime ramener ça, voilà. Et le fait est que on est vendredi, qu'elle est arrivée il y a très très peu de temps et que pour le moment, voilà, les feuilles de route, faut bien qu'il y ait des distributeurs. Alors certes, il y a Bruno Le Maire qui était là avant, Darmanin également, mais vous avez quand même voilà, ces deux ministres délégués à la transition écologique et à la transition énergétique qui pour le coup n'étaient des postes qui n'existaient pas sous le précédent quinquennat, et il faut bien qu'on sache un petit peu dans quel sens est-ce qu'ils vont aller.
Alors, venons-en à cette polémique, parce que je vois que vous brûlez d'impatience d'en parler. L'intéressé Damien Abad est toujours au gouvernement, et en début de semaine, à la mairie de Saint-Jean-le-Vieux, le ministre des Solidarités a réuni la presse et a pris la parole.
Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Écoutez, un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas.
Alors, il pose la question... Et il apporte la réponse. Je ne le crois pas. Il reste prudent, mais ça veut quand même dire qu'il reste en place, Jacques Serret.
Bah oui, il reste en place. Et la ligne, pour l'instant, s'il y en a une, parce qu'elle est quand même relativement floue au sein de l'exécutif, la ligne, c'est tant qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte, il n'y a pas de raison qu'il quitte son poste. La question maintenant, c'est jusqu'à quand cette ligne peut tenir. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'enquête préliminaire ouverte, mais si demain il y a d'autres témoignages et qu'il n'y a toujours pas d'enquête, voilà, ça peut commencer à devenir assez lourd pour le gouvernement Borne.
Il n'empêche que même à ce stade, certains observateurs ont nommé Gérald Darmanin, qui était dans une situation pas similaire, mais en tout cas proche, il y a quelque temps.
Et contrairement à Gérald Darmanin, Damien Abad, il n'a pas un poids politique véritablement aujourd'hui dans le gouvernement. Il a pas de soutien, il a plus...
Petit ministre, donc moins grave.
C'est pas que c'est moins grave, mais il a besoin d'avoir un poids aussi pour exister, pour avoir des alliés. Et aujourd'hui, Damien Abad, c'est un peu un homme seul. Il a quitté ses anciens amis DLR. Aujourd'hui, il se retrouve dans une nouvelle équipe, mais c'est pas encore...
C'est un peu comme quand on arrive en classe, et quand on est petit, on connaît personne.
Et on vient de déménager, de trouver des soutiens. C'est un peu la situation de Damien Abad aujourd'hui.
Ouais. Emmanuel Sophie du JDD.
Ouais, alors moi je trouve l'erreur, c'est pas tant de le laisser que de l'avoir nommé. C'est-à-dire qu'on visiblement il y avait des sous-entendus, des bruits de couloir, même si les républicains aujourd'hui ils disent ah mais nous on savait pas vraiment, il n'empêche que quand même on en avait entendu parler il y a quelques années, on l'avait convoqué, bon ses propos nous avaient rassurés.
Mediapart, c'est quand même quelques témoignages, notamment celui d'Aurélie Pradier qui le coince dans un couloir en disant attends, maintenant tu m'expliques.
Maintenant faut un peu se calmer, quoi. Aurélien Pradier, c'est ce qu'il affirme. Donc sachant tout cela, c'est un peu problématique aujourd'hui pour le gouvernement, enfin pour Emmanuel Macron qui faisait de cette prise Abad dans le camp LR une prise de guerre, de dire bon bah hop, je le démets de ses fonctions, alors qu'en fait il savait sans doute qu'il y avait ces rumeurs là et qu'on l'a quand même nommé. C'est là ce qui est problématique, c'est d'avoir fait ce casting là sans doute un peu en connaissance de cause, en se disant bah peut-être ça va se dégonfler, ou peut-être même qu'il perdra sa circonscription. Et comme la règle établie par l'Élysée, c'est que en cas de défaite aux législatives, vous quittez le gouvernement, peut-être qu'ils font ce pari de la défaite pour Damien Abad pour pouvoir s'en débarrasser entre guillemets.
Gilles Martin Chauffier pour Paris Match. Ce qu'il y a d'assez terrible pour ce gouvernement, c'est que à peine formé, il y a cette polémique et on ne parle que de ça.
D'abord, il faudrait quand même dire Damien Abad, une prise de guerre pour Emmanuel Macron. Calmons-nous.
Vous êtes moqueur.
Petite prise de guerre qui a exaspéré LR, mais enfin la France entière.
C'était quand même le chef des députés LR.
C'était pas une des stars de la politique française. C'est pas une grosse prise de guerre. En revanche, ce qui est assez injuste, c'est quand vous dites qu'il a pas de poids politique, il va pas pouvoir se défendre. La chance qu'il a d'une certaine manière dans son malheur et dans le malheur des jeunes femmes qu'il a croisées, c'est que il est symbolique d'une époque, de notre époque, Damien Abad. On en est à la concurrence pénitentielle. Qui souffre le plus? Est-ce que c'est les handicapés? Parce que c'est une force énorme. Quand la jeune femme, la dame qui s'occupe de lui témoigne, elle dit, mais il peut rien faire, il peut pas violer, il peut pas porter une femme, il peut pas la déshabiller.
Il l'a dit lui-même, hein.
Et on se dit en même temps, mais le soir même où il est nommé, immédiatement, il y a une espèce de rush de femmes qui l'accusent. On se calmons-nous tous. On a envie de dire, la société devient hystérique. Et je trouve trouve que Damien Abad, de ce côté-là, et je ne sais pas du tout, et peut-être qu'il est coupable, et puis à ce moment-là, il payera, etc. Mais je trouve qu'on est d'une violence et d'une brutalité qui est ahurissante dans cette affaire.
Emmanuel,
quand vous dites hystérique, c'est par rapport à quoi? Un procès en transparence, en exemplarité?
Une mise en culpabilité évidente, alors même qu'on ne sait pas grand-chose du dossier.
Oui, enfin, il y a deux plaintes qui ont été quand même déposées, certes classées sans suite, parce qu'on sait très bien que les preuves à établir dans ce genre de situation sont extrêmement difficiles. C'est parole contre parole. Maintenant, quand vous êtes ministre des Solidarités, de l'Autonomie et du Grand Âge, donc c'est un portefeuille extrêmement social, c'est un dossier qui va, je pense, le poursuivre pendant quelques mois, voire quelques années, s'il reste toujours au gouvernement. Mais là, ce que vous dites, c'est que vous êtes en train directement de mettre en doute la parole de ces deux victimes qui se sont confiées dans Mediapart.
De toutes les victimes, pas de ces deux-là, de toutes les.
Et moi, je ne me place pas systématiquement du côté des victimes, mais je ne me place pas non plus systématiquement du côté des présumés.
Je ne me mets pas du. Je ne l'innocente pas, d'accord.
C'est très très difficile. On marche sur des œufs, nous, les médias, quand on parle de cette affaire. C'est extrêmement difficile. Jacques Serret, justement à propos de médias et côté court, j'allais dire côté court de Matignon, de l'Élysée, salle des quatre colonnes, l'Assemblée. C'est quoi Radio Moquette concernant Damien Abad? C'est quoi les bruits de couloir? Qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on est prudent? Est-ce qu'on n'est pas prudent? Qu'est-ce qui ressort de cette histoire?
Bah, côté LR, on a plutôt tendance à dire on savait, oui, voilà.
Et du coup, on est embêté. Côté LR, on est très, très embarrassé.
Ils l'ont nommé président du groupe. C'est incroyable de venir nous dire maintenant. Voilà. On savait, on l'a mis en garde. Et ils le nomment président du groupe alors que personne en France ne le connaissait. LR a beau yeux de dire maintenant. C'est vraiment un coup de poignard dans le dos de ce pauvre Abad qui n'avait pas besoin de ça en plus.
Ça, c'est Gilles Martin Chauffier qui vient de parler de Paris Match. Jacques Serret d'Europe 1.
On n'est pas surpris. Et de l'autre côté, côté LREM, côté marcheur, c'est l'embarras, tout simplement. On sait pas quoi faire de ce nouvel arrivant dans son équipe. À la fois, on n'est pas dans la défensive.
C'est le cadeau empoisonné.
C'est le cadeau empoisonné. Et en même temps,
c'est le cadeau empoisonné pour Damien Abad lui-même aussi de se retrouver. Voilà.
Totalement. Donc aujourd'hui, la seule solution pour Damien Abad, c'est plutôt d'être élu et très bien élu aux législatives. C'est un peu sa seule porte de sortie aujourd'hui.
Est-ce qu'on comprend pourquoi Damien Abad ne prend pas la décision de démissionner lui-même? Parce que ça le rendrait coupable directement?
Évidemment, c'est un aveu. Vraiment? Sais pas si jamais ça arrive à quiconque dans cette pièce, quitter ou alors c'est reconnaître une part de responsabilité,
aussi
une part de culpabilité.
Est-ce que c'est aussi automatique? Est-ce que c'est, attendez, moi je suis un homme d'honneur, je vous dis que je ne suis pas coupable, mais je démissionne parce que je veux éviter toute polémique?
Mais ça engage la loyauté que vous pouvez avoir vis-à-vis du président, de la première ministre qui vous nomme. Estimez qu'aujourd'hui, ça entache l'action du gouvernement. Et donc là, par devoir de loyauté, vous vous dites, je m'en vais. Mais qu'est-ce qui lui resterait? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui lui resterait? Aujourd'hui, c'est sa carrière politique qui est menacée.
Ah, ça y est, je sens qu'on va se foutre de ma gueule. Gilles Martin Chauffier.
Pierre de Villeneuve, avec particule, on
n'est plus au
18e siècle, Pierre. S'il démissionne, évidemment, c'est comme un aveu de culpabilité. Alors qu'en plus, il vient d'expliquer un homme innocent ne démissionne pas. Donc, il ne va pas démissionner. C'est pas... Donc, là, il met le parti du président dans une situation de blocage parce que c'est lui qui empêche la situation d'évoluer. Mais objectivement, franchement, l'époque ne le comprendrait pas. Cette jurisprudence Balladur, elle est absurde d'une certaine manière parce que finalement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligé de démissionner pour la plupart des mises en examen qui ont eu lieu, non, débouchaient sur rien. Je ne parle pas des affaires sexuelles qui sont très embarrassantes et très graves, parce que c'est vraiment des agressions sur des femmes. Mais la plupart des accusations qui ont eu lieu, des affaires financières, n'ont jamais débouché sur rien. Ils ont toujours été nettoyés. Et les ministres avaient démissionné. Strauss-Kahn avait été blanchi et les autres, etc.
Jacques Serret, on a parlé de LREM, de l'ambiance chez les LR. Côté opposition, à la fois chez NUP, ORN, est-ce qu'on sort le bazooka et on se dit tiens c'est le moment ou jamais, ou est-ce qu'on est justement assez prudent?
On est même très prudent et on sort pas le bazooka. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques jours c'est une autre affaire qui est éclatée du côté des Insoumis, celle de Tahabouafs. Et donc du coup attaquer Abad, ce serait relancer la polémique Bouaf qui elle s'est éteinte il y a une dizaine de jours maintenant. Donc finalement c'est plutôt silence radio, alors qu'au final Jean-Luc Mélenchon se revendique comme le premier opposant d'Emmanuel Macron, mais sur cette affaire là ils ne montent pas du tout au front.
Et OPS, dissidents, etc. On les entend pas beaucoup d'ailleurs sur cette affaire-là.
Très, très peu.
Mais vous remarquerez quand même que, même si on en est encore une fois, et je le disais tout à l'heure en début d'émission, on en est aux prémices du gouvernement Borne, on est aux prémices, et Emmanuel, vous le disiez, après tout, on a une feuille de route, on ne sait pas où on va jusqu'à présent. On ne parle que de ça. Ça a une emprise, j'allais dire, médiatique et politique qui dépasse l'entendement.
Ouais, et puis c'est ennuyeux. Enfin, souvenez-vous, le président l'a à nouveau redit, ce deuxième quinquennat, la priorité, c'est l'égalité femmes-hommes. Et ça, franchement, quand vous assistez au défilé, parce que là, il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies à Paris pour protester contre le maintien au gouvernement de Damien Abad, franchement, ça va les poursuivre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura un texte ou une mesure brandie en faveur des femmes, on va rétorquer à la Première ministre. Mais regardez, vous avez Gérald Darmanin qui est toujours au gouvernement et Damien Abad.
Et bien voilà, l'égalité femmes-hommes, vous faites bien de le dire, puisque demain, justement à 18h15, notre invitée sera Isabelle Rome, l'entrante au gouvernement, et qui s'occupe parfaitement, justement, plutôt que parfaitement, parce que je ne sais pas pour l'instant, elle n'a encore aucun bilan sur le sujet. En tout cas, elle nous donnera sa feuille de route à elle, la ministre de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, qui sera là demain. Nous, on se retrouve dans un petit instant. On continue de parler des événements politiques de cette semaine, et maintenant, cette fuite sur éventuellement des petits excès de vitesse qui seront, j'allais dire, absous de points de permis de conduire. À tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
De retour ici dans l'allée centrale de Roland-Garros pour évoquer la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match avec Gilles Martin-Chauffier, rédacteur en chef à Paris Match, Jacques Seret du service politique d'Europe 1 et Emmanuel Soufi du service politique du journal du dimanche. L'autre sujet d'actualité, c'est dans la série cadeau de Noël avant l'heure. Attention, j'ai pas dit cadeau électoral, c'est pas mon rôle. C'est cette proposition de Gérald Darmanin qui a fuité et qui constituerait en ne plus enlever de points de permis de conduire à ceux qui font de petits excès de vitesse, en l'occurrence ceux qui font moins de 5 km/h de excès de vitesse. Marine Le Pen préfère en rire. On va l'écouter, la présidente du RN.
Vous noterez que toutes les annonces sont faites en général dans les 15 jours qui précèdent l'élection. Donc ça n'est pas les excès de vitesse de moins de 5 km/h qu'il faudrait supprimer du retrait de points, c'est évidemment ceux de moins de 20 km/h, parce que c'est ce qu'on appelle des petits excès de vitesse. Moins de 5 km/h, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un tout petit cadeau minuscule. Hein. C'est un cadeau, il faut une loupe quand même pour le regarder.
Petit cadeau minuscule, dit Marine Le Pen. Déjà, est-ce qu'on est sûr de cette mesure? On sait si c'est acté, c'est pas acté.
C'est en réflexion.
C'est une fuite. Jacques Seret.
Avancé par le ministère de l'Intérieur. Voilà, à mon avis, je pense qu'il.
On a l'habitude quand même, quand il y a des réflexions qui fuitent, que généralement, ça aboutit sur quelque chose. Non,
oui, alors après, est-ce que ça fera l'unanimité au sein du gouvernement? Ces sujets-là sont assez clivant généralement, en tout cas Gérald Darmanin a cette volonté, c'est quelque chose qui... C'est une fuite, est-ce qu'on peut parler de fuite volontaire? Très certainement, ça sort jamais par hasard. Voilà, après oui, on est à 15 jours des législatives, ça mange pas de pain, entre guillemets. Après, il faut savoir que potentiellement...
Ça peut en manger, justement.
Ça peut en manger, mais après, ce qui est peu évoqué, c'est qu'il y aurait potentiellement une contrepartie à cette mesure. C'est, attention, les petits excès de vitesse, moins de 5 km/h, ok, ça passe sous le tapis. En revanche, vous savez, quand vous êtes flashé à un radar automatique et que vous pouvez mettre que finalement c'est votre grand-mère qui circule à votre place, vous pouvez mettre le permis de conduire de votre grand-mère. Là, ce serait plus possible, à partir du moment où, là, où le véhicule est immatriculé à votre nom. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, et là c'est le en même temps qui revient, c'est assouplissement d'un côté et durcissement de l'autre. Voilà.
Sachant que 5 km/h, c'est déjà la marge d'erreur, je crois, sur les radars. Donc, si vous êtes chopé à 54, ou enfin, pas à 100, plutôt à 135 ou à 134, généralement, il y a une marge d'erreur.
Ah, vous l'avez quand même, le
Emmanuel Soufi. Comment ?
C'est-à-dire, c'est la marge d'erreur, mais mine de rien, ça pardonne pas.
Je suis pas très renseigné, moi je roule toujours, mon côté, vous savez.
Ouais. Mais si jamais vous avez
mon côté Helvète, je roule à 129 quand c'est 130.
Voilà, si vous êtes à 134 sur l'autoroute ou à 85 sur une départementale limitée à 80, ça pardonne pas. Vous avez quand même et l'amende et le retrait de points.
Ça sent le vécu Emmanuel Soufi du.
Non, pas personnellement, parce que je déteste conduire, donc voilà.
Qu'est-ce que, mais vous pouvez être à côté et témoin de justement de comment dirais-je d'excès de vitesse. Comment est-ce que Marine Le Pen, là, c'est, elle fait son boulot d'opposante, on est à 15 jours des législatives.
Sauf qu'il y a une chose...
Martin Chauffier, Paris Match.
Elle a raison de dire, c'est toujours à la veille des élections qu'il y a ce genre de... qu'ils appellent ça une réflexion. Ils réfléchissent à une éventuelle. Ils réfléchissent beaucoup en ce moment. Ils réfléchissent alors à diminuer ces 5 km/h. Puis ils réfléchissent aussi à supprimer la redevance. Ils réfléchissent à faire des tas de petits cadeaux. Alors, est-ce qu'ils feront tous ces petits cadeaux une fois après la réflexion? On n'en sait rien. Je trouve, moi, que, objectivement, sur les 5 km/h, franchement, oui, je pense que si on supprime, à la limite, c'est pas 5 km/h, je trouve que ça devrait être la norme. En vrai, si vous êtes à 5 km/h au-dessus, c'est pas grave. En revanche, là où je trouve que ce qui est parce que c'est pas ça qui est vraiment dangereux, c'est pas si vous êtes à 75 au lieu de 70. Ce que je trouve très dangereux, ce que je trouve menaçant quand je vois dans Paris comment ça se passe, c'est les gens qui sont avec leur portable. Alors ça, les gens sont tout le temps en train de téléphoner ou de tapoter quand ils conduisent. Alors ça, je trouve ça extraordinaire.
La semaine
dangereux.
Politique est en train de devenir la semaine de la sécurité routière.
Oui, je trouve que là, ils devraient dire on est sévère. Mais bon, là, c'est le petit cadeau, c'est vraiment elle a raison, Marine Le Pen, c'est vraiment le gadget électoral, hein, franchement.
Oui, mais c'est un gadget pour une certaine Emmanuel partie Sophie de la JDD. Population, quand même, qui a son importance, en fait. C'est cette même population qui était contre le passage aux 80 km/h, hein, donc bah, beaucoup de personnes qui sont des gros rouleurs. Hein. D'ailleurs, il y aura aussi un cadeau, entre guillemets, pour les gros rouleurs dans le cadre du projet de loi de finances rectificatif sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Donc, tous ces gens qui roulent, qui sont obligés de prendre la voiture et qui parfois bah, voilà, dépassent sans s'en rendre compte vraiment de quelques kilomètres heure voilà, et qui se font attraper par le radar et qui perdent un point. Donc c'est, voilà, pour moi c'est aussi une main tendue en direction de certaines catégories de la population. Il faut savoir quand même que l'amende perdurera, donc c'est juste éviter que de perdre un point et de devoir repasser ensuite son permis à points, ce qui est assez coûteux quand même, hein, quand il faut récupérer des points pour l'avoir en intégralité. Et il faut savoir aussi que c'est peut-être une mesure d'alignement par rapport à nos voisins. On est un des rares pays à avoir un permis à points. Beaucoup de nos voisins n'en ont pas. Donc est-ce que c'est la réflexion du gouvernement aussi d'avoir une espèce d'uniformisation au niveau européen? Peut-être
qu'ils l'ont instauré. J'ai l'impression qu'Emmanuel est en plein rêve. Là, elle voudrait qu'on supprime le permis à points pour rouler très très vite et payer des amendes.
C'est très politique, tous ces sujets de sécurité routière et de permis. Pendant la campagne, Éric Zemmour, il vantait le fait de supprimer le permis à points, justement. Marine Le Pen, voilà, qui parle
de... Les gilets jaunes, c'était une question de voiture. Et de camions.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement.
C'est des sujets extrêmement sensibles, on le sait. Oui,
voilà, ça, mais là, ce qu'on a du mal à saisir, c'est la cohérence dans tout ça. En fait, c'est ce même gouvernement qui a fait baisser la limitation de 90 à 80 km/h sur les routes départementales qui, aujourd'hui, nous dit bon, 5 km/h, plus ou moins, c'est pas si grave. On a du mal.
Sachant que le 80, on sait que l'artisan du 80, c'était Édouard Philippe, et il n'est plus là. Donc,
et au grand mécontentement d'Emmanuel Macron, avait-on dit à l'époque.
Qui paraît-il
Philippe
était...
l'avait imposé. Oui.
Ouais. C'est fort ça, d'imposer quand même quelque chose à Emmanuel Macron et qu'un Premier ministre puisse imposer ça à un président de la République. Là, en l'occurrence, avec Elisabeth Borne. C'est parce qu'il y a Emmanuel qui est là que ça me perturbe. Je vois Emmanuel et je l'appelle Elisabeth, ou le contraire. Il y a une polémique, en tout cas, qui a été... une autre polémique dont on parle encore, puisque ça ne date pas de cette semaine, c'est la question du burkini. Question clivante, tranchante. L'ancienne ministre des Droits des Femmes de François Hollande n'y va pas de main morte et prêtez l'oreille. C'est bien de crétin qu'elle traite Éric Piolle. C'était le 18 mai dernier, au 4 Vérité sur France 2.
Quel crétin. À tout
vous allez comme ça.
Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien, cette fois-ci, ça ne vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Alors, sur le timing, je suis sidérée en termes d'opportunité.
Et ça dessert la campagne de la gauche?
Mais ça pollue la campagne incontestablement. Et puis sur le fond, il a tort.
Sentiment différent pour le président de l'Association des maires de France. Finalement, c'est pas si grave, dit en substance ce matin au même cas de vérité chez Caroline Roux, David Lisnard. Si chacun est responsable, on l'écoute.
Dans une piscine, on ne peut pas interdire à des hommes ou à d'autres personnes d'avoir des tenues intégrales pour des raisons d'hygiène et de sécurité, et autoriser pour des raisons religieuses, donc séparatistes, et c'est en cela que la décision du tribunal administratif est intéressante. Il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire que cette revendication au burkini, elle est très marginale quantitativement, mais elle est très intense parce qu'elle résulte d'associations qui sont des outils de propagande, et donc il faut être clair et net face à cela.
Voilà, donc la question du burkini qui est encore là, et on a du mal à s'en dépatouiller. Laurence Rossignol, elle y va très très clairement sur Éric Piolle, elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, Emmanuel Soufi.
Oui, puis elle, vous le signaliez tout à l'heure, hein, Pierre, hein, elle a quand même occupé aussi un ministère du droit des femmes. Hein. Donc c'est logique, elle est dans ce discours féministe, inquiet par rapport à des revendications religieuses. Après, moi j'ai du mal à matérialiser, est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui dans les piscines municipales un sujet burkini? Enfin, je pose la question.
David Lisnard, il répond un peu en disant que...
C'est marginal, voilà. Comme ça a pu l'être sur les bases de loisirs, Valérie Pécresse l'a interdit sur les bases de loisirs en Ile-de-France il y a quelques années, ou l'année dernière, je ne sais plus. En tous les cas, voilà. Est-ce que entre le discours, les polémiques médiatiques et la réalité sur le terrain, je pense qu'il y a un gros gap, voilà.
Gilles-Martin Chauffier.
Je pense qu'il y a surtout une démarche extrêmement démagogique de la part d'Éric Piolle, qui est un calcul politique. Moi, j'ai pas une foule d'amis musulmanes, mais enfin, mes copines musulmanes, aucune d'entre elles n'a jamais demandé à prendre le burkini pour aller à la piscine. S'il y a des femmes qui veulent se baigner à la mer avec un burkini, ça ne me gêne absolument pas. Ça gêne personne, d'ailleurs. Dans les piscines, il y a des règles hygiéniques, etc. Et une fois de plus, je trouve qu'on manipule un souhait potentiel de quelques musulmanes qui va faire qu'on va montrer du doigt à la communauté musulmane qui ne demande rien. Et tout ça, c'est un calcul d'Éric Piolle qui se dit « Oh là là, j'ai été doublé sur ma gauche avec Europe Écologie Les Verts par Sandrine Rousseau. Donc il faut que j'en rajoute pour bien montrer que c'est moi qui incarne l'aile progressiste du parti. » Je trouve que c'est de la démagogie, que c'est maladroit, que c'est malvenu, que personne ne s'y attendait, personne ne lui demande. Et Emmanuel a totalement raison. Je veux dire, en plus, qui ça concerne? Objectivement, ça concerne quasiment personne. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Aucune de nos copines n'a jamais demandé, on voudrait porter le burkini.
Oui, alors il y a celles qui... Mais faut faire face à la réalité. Il y a celles qui veulent porter le burkini. En l'occurrence, c'est peut-être marginal, mais il y a aussi... celle dont le mari ou le compagnon dit tu vas porter le burkini, sinon tu ne sors pas à la piscine.
Vous vous rendez compte, la difficulté, c'est après en fait une femme musulmane qui irait à la piscine en maillot de bain une pièce. Donc en gros, on pourrait aujourd'hui l'accuser, lui dire mais attends, mais pourquoi tu n'as pas mis ton burkini puisqu'il est autorisé? C'est ça aussi que pointe Laurence Rossignol, et ça, je trouve qu'elle a complètement raison, c'est-à-dire que ça devienne un modèle, une sorte d'uniforme, non pas obligatoire, mais avec une pression sociale, religieuse, pour le mettre, puisqu'il sera autorisé.
En plus, l'argument de Piolle que vous développez là, il est quand même très, très dangereux, parce que d'une certaine manière, ça revient à dire « Ah ben, si vous portez le burkini, ça vous permet d'aller à la piscine, et c'est bien. » Mais alors, à ce moment-là, on va qu'à dire, mais... Les talibans, c'est formidable de permettre la burqa. Parce que si vous ne portez pas la burqa, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Mais si vous mettez la burqa, vous avez le droit d'aller dans la rue. Alors donc, la burqa est un synonyme de progrès social.
Vous voulez dire que c'est une porte ouverte à d'autres choses.
Le burkini, c'est pas un signe de progrès. C'est un signe de soumission à Dieu, à l'homme, etc. Mais enfin, nous expliquer que c'est un progrès. Et en plus, quand Piolle... il pousse le vice loin, il dit. Oh, puis en plus, c'est pas grave parce que dans la même piscine, il pourrait y avoir des filles au sein nu. Mais c'est comme si on dit, je vais mettre dans la même cage des petits oiseaux, des petits chats et tout va très bien se passer. Non, il se moque du monde. Enfin, pour moi, le mec
cherche la cohérence. Clairement, la cohérence.
Totalement incohérent. Ouais.
Jacques Serret.
Oui, la cohérence, on la trouve pas. Quand Éric Piolle, Laïcard, il se revendique comme tel. Finalement, on va défendre les islamistes. Enfin, on ne voit pas où ils vont en venir, si ce n'est de vouloir exister finalement dans cette période. Il n'est pas parvenu à s'imposer chez les Verts. Aujourd'hui, il y a cette...
En tout cas, s'il veut exister, il a trouvé le sujet par lequel il existe. Parce qu'on cite son nom. Et c'est le fameux qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal. En l'occurrence, on en parle.
Un, c'est clientéliste. Et deux, ça lui permet d'exister. Finalement, voilà les deux avantages pour lui de cette polémique.
Éternellement la vieille
Martin Chauffier.
C'est réamorcer éternellement la vieille bombe qui a explosé 1000 fois, du voile, du burkini, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est de la...
Et ça parasite la campagne, parce qu'en attendant, on n'a pas les vrais enjeux. Est-ce qu'on arrive quand même à parler des vrais enjeux?
Je suis complètement d'accord avec Gilles.
Emmanuel Soufi.
Pour moi, personnellement, c'est un non-sujet.
Ouais,
c'est un sujet dont on ne devrait même pas débattre ce soir.
Eh ben voilà, alors on passe à autre chose. On passe à autre chose, on va parler des dissidents. Les dissidents quand même, alors j'ai un exemple parce que c'est un des derniers. À Reims, on a une députée sortante qui s'appelle Aïna Curic qui fait campagne dans la deuxième circonscription de la Marne en se revendiquant de la majorité présidentielle. Et dans les faits, elle se maintient en dissidence face à la LR Laure Miller qui, elle, a véritablement obtenu l'investiture.
Il y a combien de cas, Jacques Serret, vous m'avez dit tout à l'heure ?
Alors, j'ai fait le décompte, normalement, si j'ai bien compté, il y en a 87. Il y a 87 candidats aujourd'hui aux législatives qui se réclament d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas été investis par le mouvement Ensemble, à savoir cette grande confédération qui rassemble En Marche, le Modem, Agir et tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Voilà, ils n'ont pas reçu l'investiture, mais ils y vont quand même. Alors, parfois, je ne sais pas si c'est juste qu'à mettre la photo d'Emmanuel Macron à côté d'eux. En tout cas, il n'y a pas ce nom majorité présidentielle ou Ensemble. Mais en tout cas, voilà, c'est une zone de flou pour les électeurs qui, en tout cas pour ceux qui souhaitent voter pour un candidat macroniste, ils peuvent parfois avoir le choix entre deux candidats.
Mais c'est normal dans une campagne présidentielle, c'est une anomalie, c'est pour donner du piment dans une campagne, se sont délaissés pour compte parce que finalement il y a peut-être quelqu'un qui s'amuse en haut à tirer les ficelles d'une marionnette. On est dans quel cas de figure là ? C'est assez
tout a été décidé à Paris, c'est un peu ça le problème chez les marcheurs, c'est que ça s'est passé.
L'anomalie a été décidé à Paris.
Tout a été acté à Paris et en haut lieu, puisque chaque investiture a été actée par le chef de l'État en personne. Emmanuel Macron a veillé pendant 3 jours.
Les autres partis, parce que je crois qu'il y a aussi pas mal de dissidents socialistes qui...
Oui, mais là, il y a une autre histoire derrière les socialistes.
Oui, mais il y a des parachutages un peu systématiques.
Mais il y a la NUP et puis je ne vais pas vous refaire le feuilleton, mais effectivement, il y a cette grande...
C'est la même cuisine, en fait. Vous êtes obligé de respecter des courants avec lesquels vous faites alliance, et donc il y a des échanges comme ça, de circonscription en circonscription, et puis des députés qui étaient en poste depuis X temps, qui n'ont pas forcément démérité, qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau parce qu'il faut placer un horizon, parce qu'il faut placer plutôt un modem.
J'en reviens à ma question initiale, est-ce que c'est une anomalie, est-ce que c'est une bourde, est-ce que c'est une boulette, est-ce que c'est...
Ah non, c'est pas forcément des bourdes et des boulettes, parfois c'est fait en connaissance de cause. Alors après, c'est fait depuis Paris en espérant que le candidat qui n'est pas investi n'y aille pas puisqu'il est dégoûté de ne pas avoir reçu l'investissement.
On pousse les gens au vice, c'est terrible.
C'est un peu ça, sauf que souvent, ces députés qui sont investis pendant 5 ans, ils ont encore envie de faire 5 ans de plus. Et donc, finalement, c'est comme ça qu'on se retrouve à ces situations pareilles. Et le cas le plus emblématique, selon moi, de ces députés qui y vont quand même, c'est Stéphane Vojetta, député des Français de l'étranger dans la zone Espagne, Portugal, voilà, ces pays-là.
Avec Manuel Valls.
Et qui se retrouve avec Manuel Valls. C'est-à-dire que ce député était là depuis 5 ans et on lui parachute, entre guillemets, Manuel Valls, face à lui qui a lui reçu l'investiture.
Bon, mais écoutez, oui, Gilles Martin.
Quand Mélenchon impose son gendre comme candidat à Villeurbanne, alors qu'il y a un leader légitime et naturel
des Femmes d'ailleurs.
Légitime des Insoumis à Villeurbanne. Je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est En Marche, mais c'est dans tous les partis, il y a un peu ça.
Voilà, vive la politique. Et c'est pour ça que vous êtes là pour la commenter. On va se retrouver dans un petit instant après la pause publicitaire et on reviendra sur ce papier que vous signez, mon cher Gilles Martin Chauffier. Pape Diaye, le ministre qui fait polémique, c'est dans Paris Match cette semaine. À tout de suite.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Dernière partie de la semaine politique sur Europe 1, ici à Roland-Garros, face au cours central où s'affrontent Azarenka et Teichmann, avec maintenant un avantage à Azarenka, 5-4 dans le troisième set qui sera décisif. Et déjà un 15-0 au service. On parle d'un autre service. Gagnant ou pas, encore trop pour le savoir. C'est le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, le ministre qui fait polémique. Gilles Martin Chauffier, c'est vous qui signez cet article dans Paris Match. C'est très intéressant parce que on passe en revue le passé que certains observateurs considèrent déjà comme un ADN, comme une carte d'identité qui peut être problématique pour la suite de ses fonctions au gouvernement. Vous faites une comparaison avec son prédécesseur, qui était rattaché à ce qu'on appelle le récit national, peut-être pas forcément... on met en tout cas sous point d'interrogation ce que pourrait faire le nouveau ministre. Et puis à cette phrase qui d'ailleurs est reprise, je l'ai soulignée dans le corps du texte, mais vous la reprenez effectivement au début du chapitre. C'est très intéressant. Il est toujours maître de ses émotions. Il sait refroidir les conversations brûlantes. C'est un roseau au nerf de chêne. Ça veut dire quoi exactement ? Dans la contradiction ?
C'est un homme extrêmement calme, c'est un homme très nuancé, c'est quelqu'un qui est, quand il a été nommé,
Objectivement, la plupart des journalistes ne savaient pas très bien, on n'est pas spécialistes tous de la sociologie indigéniste française, donc on ne savait pas bien qui était pas bien. Il avait simplement une réputation. Il avait été nommé directeur du musée de la Porte Dorée, du musée de l'immigration. On savait que c'était un intellectuel, et c'est un intellectuel respecté, car calme, pondéré, posé dans un univers qui peut être complètement hystérique. C'est-à-dire, on voit bien les intellectuels qui poussent des hurlements dès qu'on aborde ce genre de sujet. Et il est arrivé, on l'a dit, c'est l'anti-Blanquer, c'est-à-dire, c'est le déconstructionniste. En fait, la vérité, c'est que il porte effectivement, c'est un intellectuel qui est un agrégé d'histoire, qui a commencé par faire une étude. Sa première thèse sur Dupont de Nemours. Comment Dupont de Nemours s'est installé aux États-Unis. Donc, il est parti aux États-Unis faire sa thèse. Et là, il a découvert les Black Studies. Et il est devenu un
spécialiste. Rosa Parks, Martin Luther King, pas que, mais en tout cas les...
Non, les intellectuels. Les travaux des intellectuels sur l'esclavage, le poids de l'esclavage, les conséquences de l'esclavage aujourd'hui. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est que Pape Diaye, on nous dit, attention, c'est Martin Luther King. Non, pas du tout. Pape Diaye, je vais vous dire la vérité, c'est Eugène de Rastignac. Il s'est vendu en disant « je suis l'incarnation de la méritocratie ». Non, il n'est pas l'incarnation de la méritocratie, parce qu'il est l'incarnation de l'élitisme.
Je vais vous parler.
Son père était polytechnicien, son père était directeur du port de
Dakar. Vous parlez de son enfance.
Oui, sa mère était une professeure, il vivait à Bourg-la-Reine, dans une banlieue tout à fait paisible et prospère. Il a été au lycée Lacanal, qui est un des meilleurs lycées de la région parisienne. Il a fait ses études à Henri IV. Aujourd'hui, ses propres enfants sont à l'école alsacienne, qui est quand même le summum du communautarisme bobo. Si on fait du communautarisme et du communautarisme bobo dans son cas.
Ils s'appellent Rose et Lucien, ces enfants, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de prénom choisi sur.
Non, je veux dire, c'est pas du tout. On nous le présente comme une menace pour la société française. Pas du tout. C'est un professeur qui a des tendances. Évidemment, il a une analyse un peu racialiste de l'histoire. Mais ça, après tout, comment faire le 18e Au XVIIIe siècle, c'est un fait qu'un tiers du budget de la France venait des îles et que les îles, c'était un système esclavagiste. Donc, il y a de quoi réfléchir. Aujourd'hui, c'est un fait que, quand vous naissez noir, c'est un handicap dans des tas de quartiers, etc. Donc, on ne peut pas nous dire que ce n'est pas un sujet d'étude pour la sociologie. Simplement, quand on nous dit maintenant, attention, c'est l'homme qui va déconstruire la France, non, pas du tout. D'ailleurs, vous verrez que, comme d'habitude, la fonction fait l'homme. Et il est peut-être l'anti-Blanquer, mais Macron lui a donné comme ordre de mission les mêmes ordres qu'à Blanquer, c'est-à-dire réformer le bac, libéraliser l'école, la rémunération au mérite. Il le fera comme. Vous verrez qu'à mon avis, il va se glisser parfaitement dans l'habit.
Vous complétez Jacques Seret ou vous démentez je pense tout d'un coup, alors Gilles Martin-Chauffier et Jacques Seret et Emmanuel Soufi, avec ce que vous venez de dire à l'instant, à Nicolas Hulot, qui d'une certaine manière s'est glissé aussi dans le portefeuille d'un ministre de l'écologie sous Emmanuel Macron, avec quand même un président qui décide de tout. Je parle sous votre contrôle.
Mais en tout cas, oui, et sur la forme, c'est un peu le même effet de surprise, c'est-à-dire premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était Nicolas Hulot, c'était la grande annonce, la grosse surprise, finalement. Personne ne l'avait plus ou moins vu venir et arriver pour être nommé dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que personne n'avait vu venir Pape Ndiaye, jamais cité. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé.
Nos pronostics qu'on avait tous juste avant.
Beaucoup de noms.
On a un quart d'heure de l'annonce.
Mais c'est ça, jusqu'au début d'après-midi avant l'annonce, le nom de Pape Ndiaye, personne ne l'avait vu venir. Et quand il a commencé à circuler, le premier réflexe des journalistes, c'est d'aller checker sa fiche Wikipédia. Qui est-il? D'où vient-il? En tout cas, au niveau politique, beaucoup ne le connaissaient pas, tout simplement. Donc, en tout cas, oui. Pour le comparer à Nicolas Hulot, c'est l'effet de surprise, en effet. Et après, sera-t-il l'anti-Blanquer ou pas? On verra. En tout cas, parmi ceux qui constituent son cabinet aujourd'hui, on a appris, en tout cas c'est paru au journal officiel hier, son directeur de cabinet, c'est un proche de Jean-Michel Blanquer.
Ouais. Donc finalement, ça va peut-être... Est-ce qu'il faut, d'ailleurs, c'était ma question suivante, est-ce qu'il faut, Emmanuel Soufi, un anti-Blanquer? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un anti-Blanquer au ministère de l'Éducation nationale?
C'est une bonne question. On a peut-être plutôt besoin de quelqu'un qui va réconcilier le gouvernement avec les organisations syndicales. Ça a été un peu le souci de Jean-Michel Blanquer. de directeurs d'établissement. Souvenez-vous, il y a eu quand même des grosses manifestations avant le Covid ou après. On a un peu perdu maintenant dans la temporalité. Fait est que quand même, hein, c'était une première. Hein, toutes les organisations syndicales, y compris les principaux d'éducation, les proviseurs, les directeurs d'établissement qui manifestent tous ensemble pour dénoncer des conditions d'enseignement, franchement, c'était du jamais vu. Donc, il y a sans doute besoin d'avoir une personnalité, un ministre ou une ministre qui réconcilie, en fait, qui reprenne le dialogue social de façon plus apaisée que Jean-Michel Blanquer. Et le fait est que quand Papendaï a été nommé, il y a eu très peu de communiqués, voire pas du tout de syndicats enseignants pour dénoncer son arrivée. Donc, c'est déjà un bon point.
Et même en allant les chercher, c'est-à-dire que nous, médias, on les sollicitait à Europe 1, on les a appelés.
Pas de critique.
Attendez, on va voir, peut-être pas tout de suite.
Une grande prudence, puis même une forme de satisfaction.
J'ai Roland Garros, je suis pas sûr de pouvoir vous répondre.
Parce qu'il y avait un profond divorce entre...
Il y avait même des compliments de la part de Mélenchon.
Martin Chauffier,
Paris Match. La NUP a fait des compliments, Mélenchon a dit que c'était très bien, que...
Il s'est porté garant d'une certaine manière de ce ministre.
Si le calcul, c'est on calme le jeu du côté de l'éducation nationale, avec Papendaï, c'est effectivement assez habile parce que c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, être tout à fait dans l'esprit de l'époque et d'esprit des syndicats. Ce qui est intéressant en même temps, et c'est là que ces sujets sont intéressants.
Attention à l'usage du en même temps, parce qu'on va croire que.
Ce qui est intéressant, c'est que ça reflète la société française. C'est-à-dire que la société intellectuelle française, il y a eu pendant des années Sartre contre Aron. Ensuite, il y a eu pendant des années Bourdieu contre Gaucher. C'est-à-dire, et maintenant, le grand débat, c'est les universalistes contre les indigénistes. Et là, on avait un ministre qui était universaliste et bingo, on nous met l'incarnation de l'universaliste. C'est assez, on avait Blanquer est universaliste et on nous met le roi des indigénistes. C'est intéressant, ça reflète. C'est un peu la singularité de la société française. C'est une société intellectuelle où on aime bien débattre, où on aime bien argumenter.
D'où votre en même temps de tout à l'heure.
Oui.
Ça n'était pas pour rien. On parlait de Mélenchon à l'instant. Il y a eu une réaction de Mélenchon qui a été très, très rapide, pratiquement, je crois, Jacques, à 10-15 minutes après la nomination du gouvernement. Et
il est ravi.
Et il est ravi. Alors, il est ravi. En même temps, il mange son chapeau parce que tout le monde s'accorde à dire que à 15 jours des législatives, ça peut draguer certains, électeurs qui allaient directement à la NUP.
Mais c'est aussi un coup politique, on nomme ce ministre.
C'est fait pour ça.
C'est aussi fait pour ça. En tout cas, à voir si la vision de Papendiaï s'accorde avec celle d'Emmanuel Macron sur l'éducation. On verra, mais en tout cas, à court terme, c'est un coup politique pour les élections législatives. Emmanuel Macron sait qu'il y a une partie de ses électeurs qui ont un ADN plutôt de gauche, de centre-gauche, qui peuvent parfois hésiter dans des circonscriptions avec des candidats socialistes investis par la fameuse NUPES. Et aujourd'hui, en nommant ce ministre de l'éducation-là, oui, en tout cas, c'est permis de montrer que, et d'autant plus quand on connaît l'électorat des enseignants, qui penche plutôt à gauche, en tout cas pour le dialogue à venir, en nommant ce ministre-là, c'est un signal clair qui est envoyé.
Emmanuel Sophie pour lui.
Après, il est aussi nommé pour appliquer un programme, une politique qui a déjà été un peu dévoilée par le président pendant la campagne, qui est celle de plus d'autonomie des chefs d'établissement pour nommer et recruter des enseignants. Ça, voilà. Le CAPES, on ne sait pas s'il va survivre. Tout un tas de points qui sont quand même extrêmement urticants et difficiles, délicats pour les organisations syndicales. Donc, elles ne sont pas dupes et les enseignants ne sont pas non plus dupes. Il n'y a pas Papendaï. Et derrière, lui, il est là quand même pour ses marges de manœuvre, comme les autres ministres, hein, pas seulement lui, seront quand même assez limitées, parce que en haut, c'est Emmanuel Macron qui décide, hein, et l'administration.
Et l'administration.
Et Martin Chauffier.
L'administration, comment Allègre avait appelé le mammouth. Qui était une maladroit, qui avait mis le feu au lac, mais enfin, c'est quand même un peu un mammouth. Donc,
j'ai entendu dire usine à gaz aussi. Enfin, il n'y a pas un seul.
L'administration centrale de l'éducation nationale, on ne fait pas ce qu'on veut. Le ministre n'arrive pas en disant tiens, on change tel programme, on fait ceci, on fait cela. Tout ça demande des négociations sans fin à l'intérieur même du ministère.
Oui, chaque ministre de l'éducation peut témoigner de ça. Il n'y a pas un seul ministre de l'éducation qui est sorti, j'allais dire, indemne de son expérience.
Les seuls qui vous disent, c'est si on ne fait rien. Si on ne fait rien, tout ce
Il y en a eu des noms.
Jacques Lang en nomme un ou deux en disant ils n'ont rien fait.
Ouais, bon, c'est lui qui dit ça. Oui. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand on est sur une annonce telle que celle de Pape Ndiaye, on est dans un combat politique, on est en même temps dans une continuité et une discontinuité du mandat. On met Borne, qui a été une de ses ministres les plus fidèles, qui a déjà occupé trois ministères, celui des transports, celui de l'écologie et celui du travail. Et il a fallu absolument mettre un trublion. C'est pas du tout le bon mot d'ailleurs, trublion. Il a fallu mettre un marqueur dans ce gouvernement pour se dire, non, finalement, ça n'est pas que du Macron d'avant. Alors que j'ai dit que finalement, ce quinquennat n'allait pas être un quinquennat de continuité.
Gilles Martin. Je crois qu'Emmanuel Macron, c'est quand même un homme qui fait des coups. D'ailleurs, Elisabeth Borne, jusqu'à 12 heures avant qu'elle soit nommée, c'était pas elle qui avait été retenue.
Oui, mais elle tenait la corde quand même depuis.
Elle tenait la corde depuis un moment, mais enfin, et puis elle la tenait pas à d'autres moments. Et on avait dit que c'était Catherine Vautrin qui le ferait. C'est elle qui tenait sérieusement la corde. Et je pense que dans le cas de Pape Ndiaye, il y a effectivement l'idée de faire un coup, comme il avait fait Hulot. Et c'est une espèce de débauchage intellectuel assez remarquable, parce que c'est vrai que Pape Ndiaye, c'est une pointure intellectuelle. Donc, je pense que s'il y a plus qu'un calcul, c'est simplement l'idée de réussir quelque chose qui va attirer l'attention.
Il est sur un siège éjectable. On parle souvent de ce gouvernement comme un gouvernement d'intérim et qui sera peut-être ajusté. D'ailleurs, il y a des cases qui manquent. Après les législatives, Jacques Sauré.
Certains ministres, ceux qui se présentent aux élections législatives, en effet, sont sur un siège éjectable, en tout cas pour les zones où il y a potentiellement un risque. Oui. La Première ministre aussi se présente. Pour les ministres où Emmanuel Macron ne souhaitait pas qu'il soit sur un siège éjectable, il leur a dit très clairement, par exemple, il l'a dit à Agnès Pannier-Runacher, qu'il ne souhaitait pas qu'elle se présente aux élections législatives parce qu'il comptait pour elle, justement, pour la transition énergétique. Pape Ndiaye, aujourd'hui, ne l'est pas, tout simplement. Il ne se présente pas aux législatives. Il ne l'a pas débauché pour finalement le virer dans deux mois. Donc, clairement, non.
Voilà, Pape Ndiaye, le ministre qui fait la polémique, à lire dans Paris Match cette semaine. Merci à vous, Gilles Martin Chauffier. Merci, Jacques Seret d'Europe 1 et Emmanuel Soufi du Journal du Dimanche. Restez avec nous ici, Porte d'Auteuil à Roland-Garros. On revient dans un instant pour le journal de 19h. Ensuite, c'est Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, qui nous rejoint. Et à 19h45, service Pioline, le résumé des matchs de la journée avec Cédric Pioline, notre consultant, et l'ami Axel May. À tout de suite.
La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.